Il me semble que ce qui est marquant, c'est la cohérence qu'il exprime lorsqu'il parle de la crise économique et que chacun peut connaître, évidemment, et où il dit qu'il y a la racine de cela, une crise de la foi. Et je crois qu'une cohérence à la fois dans la pensée du pape et dans les événements qui surviennent dans le monde occidental, où finalement il y a une crise économique, il y a une crise culturelle aussi. Et la pensée, le discours du pape nous aide à synthétiser ces différentes crises qui finalement, selon lui, n'en font qu'une, qui est une crise de la foi. Il me semble que c'est une analyse extrêmement pertinente. Et on voit bien, d'ailleurs, si on veut parler que du point de vue économique, que toutes les solutions qu'on peut envisager, les mesures que l'on peut prendre ne sont finalement que parcellaires et ne font que reculer certaines échéances. Mais il faudra bien un jour se poser la question dans nos économies occidentales de ce que signifie la consommation, ce que signifie la production, ce que signifie le travail. Tout ça, je crois que c'est notre foi chrétienne nous amène à proposer des réponses à ce monde tel qu'il est, et il me semble que le discours du pape nous encourage puissamment à faire cette synthèse en nous-mêmes, dans notre réflexion, dans notre pensée, de telle sorte que la crise que nous traversons ne soit pas perçue uniquement comme une crise économique passagère, mais comme une crise morale beaucoup plus profonde qui trouvera sa solution finalement dans la conversion à laquelle le pape, à la suite évidemment du Christ lui-même, nous appelle sans cesse.
Et donc, face à la crise de la foi que connaît l'Europe aujourd'hui, comment redonner une vitalité à la foi ?
Évidemment, la question est difficile. Je crois que le pape insiste beaucoup, et il a sans doute bien raison, sur la conversion personnelle, le témoignage que peut donner chacun, non pas forcément dans des discours grandiloquents, mais dans le témoignage de sa vie chrétienne, toujours appelé à la conversion. Et je crois finalement, d'une certaine façon, à l'efficacité de cette conversion personnelle, de chacun en Église, bien sûr, pour changer la face du monde, puisqu'il s'agit bien de cela, de notre foi aussi, que d'apporter le salut à toute l'humanité. Si chacun est engagé sur un authentique chemin de conversion, cette conversion portera des fruits. Ce sont des fruits spirituels, ce sont évidemment pas des fruits que l'on peut quantifier ou même prévoir, mais personnellement, je ne doute pas que la conversion de chacun porte du fruit pour le salut du monde entier. C'est bien le sens de la communion que nous vivons dans l'Église.
Pour le pape, les JMJ sont un exemple justement d'un remède contre la fatigue de la foi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas si c'est un exemple ou un remède. Je dirais plutôt que c'est un épiphénomène. Enfin, je veux dire, ce sont des moments privilégiés où apparaît de façon très visible ce que l'on ne voit pas habituellement. Alors, c'est vrai des JMJ de Madrid. Je me souviens très bien, moi, des JMJ de 1997 à Paris, où finalement est venue au jour une réalité qu'on ne voit pas ordinairement. Et je crois que la chance, effectivement, de ces journées mondiales de la jeunesse, c'est de montrer ce que l'on ne voit pas habituellement et qui demeure, c'est-à-dire la vitalité, la joyeuse vitalité, je dirais, de la foi des jeunes.
Les jeunes, justement, sont cette lueur d'espoir pour le pape. En quoi, justement, les jeunes peuvent-ils être acteurs de la nouvelle évangélisation ?
Alors, je dirais d'abord qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont lueur d'espoir pour le pape, puisque dans son discours, il a cité l'Église d'Afrique, qu'il a visité récemment aussi, où il a dit de très belles choses, encore une fois, sur la vitalité, la joie que ces Africains qu'il a rencontrés ont d'être des disciples du Christ. S'agissant de la jeunesse et de la question que vous me posez par rapport à la nouvelle évangélisation, je crois que la génération actuelle de la jeunesse est une génération qui commence à tourner, j'allais dire, la page de l'immédiat après-concile. À 50 ans du Concile, il me semble que nous sommes à ce moment un peu charnière où l'immédiat après-Concile se termine, va s'achevant, et de telle sorte que, avec l'année de la foi qui va commencer l'an prochain, avec le synode sur la nouvelle évangélisation, la transmission de la foi, à 50 ans du Concile Vatican II, l'Église va être en ordre de marche pour le troisième millénaire, et j'allais dire au-delà, pour être fidèle à sa mission d'annonce de l'Évangile. Et justement, les jeunes sont cette génération qui vient après l'immédiat après-concile et qui retrouve ses manches, son honte, son difficulté de s'affirmer chrétien, disciple du Christ. Et je crois que c'est effectivement une grande chance. Et il nous faut, nous, peut-être les générations un peu moins jeunes, rendre grâce pour ces jeunes et savoir les accueillir, leur faire toute leur place, la place qui est la leur dans notre Église.
Le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation a donc été créé il y a un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et donc en vue justement du prochain synode sur la nouvelle évangélisation l'année prochaine, quelles sont les perspectives ?
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites cette année, en particulier beaucoup de visites reçues et de visites faites, en particulier Mgr Fisichella et souvent par Mont et par Vaux, pour justement expliquer de quoi il s'agit quand on parle de nouvelle évangélisation. Et au Conseil pontifical, ici même à Rome, nous avons reçu beaucoup de visites, en particulier beaucoup de Français qui sont venus d'eux-mêmes, de telle sorte que, effectivement, lorsque l'on parle de nouvelle évangélisation, beaucoup dans notre pays, en France, sentent concernés par cet appel du pape. Alors cette année, nous avons donc reçu, nous avons visité et nous avons préparé ce que nous appelons la mission métropole, qui aura lieu au moment du carême prochain dans 12 grandes cités européennes, que l'on veut comme un signe donné en vue justement de la préparation du prochain synode. Il faut mentionner aussi la rencontre qu'il y a eu le 15 et 16 octobre de ce que nous avons appelé les nouveaux évangélisateurs, où finalement nous n'étions que 7000 parce que la salle Paul VI ne contient que 7000 places. Ce qui veut dire que là encore, quand on invite au nom de la nouvelle évangélisation massivement les jeunes, mais pas seulement, ont répondu positivement à cet appel.
Et pour 2012, quels sont les projets, les initiatives ?
Alors il y a donc, bien sûr, je vous le disais, la mission métropole qui aura lieu pendant le carême. Il y aura aussi de nouvelles rencontres qui sont envisagées. Et il y aura l'ouverture de l'année de la foi, puisque cela va nous concerner au premier chef dans ce Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Et bien sûr, le synode du mois d'octobre, qui va nous occuper aussi avant, pendant et après, sans doute. Et pas seulement nous, toute l'Église est appelée ainsi à se mobiliser. 2012 sera une année charnière, un an justement après le démarrage de ce Conseil pontifical. Nous n'avons pas encore pris notre vitesse de croisière, dans la mesure où nous ne sommes pas encore au complet, mais j'espère qu'en 2012 cela sera vrai pour pouvoir aborder le synode de façon fructueuse.